Tic Mobile de Banque Atlantique. L'appli mobile totalement gratuite vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes vendredi, soyez les bienvenus et profitez-en pour commenter l'actualité de votre choix. Dans 30 minutes, c'est la libre antenne, tous les sujets nous intéressent et vous êtes plusieurs ce matin à nous appeler de Guinée pour commenter le procès du massacre du 28 septembre. Moussa Dadis Camara a de nouveau comparu cette semaine. Des réactions également du Sénégal après la visite de Marine Le Pen, un déplacement qui a suscité sur place de vives réactions. On nous interpelle également sur l'absence du Maroc, on va parler football là, hein, l'absence du Maroc au championnat d'Afrique des Nations qui se tient en Algérie. Une absence sur fond de tensions diplomatiques entre Rabat et Alger. Parmi les autres sujets qui vous intéressent visiblement, puisque vous êtes nombreux à nous appeler, il y a l'insécurité dans l'Est de la RDC ou encore l'avenir des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La libre antenne, c'est donc dans 30 minutes et d'ici là, vous nous appelez. Le standard reste ouvert 33 9 693 693 70 ou bien les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Un petit coucou à votre équipe d'appel sur les grandes actualités.
Eh bien, merci de votre encouragement, Jean-Baptiste. Et évidemment, sans cette équipe, on ne pourrait pas réaliser cette émission en direct tous les matins. Jean-Baptiste, vous avez des questions sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, dans l'Est de la RDC, votre pays ?
Oui, effectivement, on en a deux qui nous brillent les lèvres. Alors, la première préoccupation, pourquoi les rebelles du MV3 ne retirent-ils pas leurs troupes de zones récemment contrôlées comme le stipule l'accord de Luanda?
Et d'ailleurs, à Davos, lors du Forum économique mondial, le président Tshisekedi a déclaré « Ils font semblant de bouger, ils agissent comme s'ils bougeaient, mais ce n'est pas le cas ». Pauline Azidi, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Rappelez-nous d'abord, avant de répondre précisément à Jean-Baptiste, ce que stipule cet accord conclu il y a deux mois à Luanda.
Oui, alors fin novembre, les chefs d'État de la région se sont réunis en Angola et sont parvenus à prendre plusieurs décisions concernant cette crise dans l'Est, un cessez-le-feu qui est régulièrement violé hein, et un accord de principe sur le retrait du M23 dans ses positions historiques. Le mont Sabino s'est situé dans la zone des trois frontières RDC, Rwanda, Ouganda et ce pour le 27 novembre 2022.
Alors nous sommes le 20 janvier 2023, quelle est la situation sur le terrain ?
Ah ben alors on n'y est pas, hein. En revanche il y a eu un peu de mouvement. Fin décembre, le M23 a reculé de ses positions à Kibumba, c'est à une vingtaine de kilomètres de Goma, et début janvier, les rebelles ont remis le camp de Rumangabo aux soldats de la force est-africaine. Un retrait dont l'effectivité est, vous le disiez, remise en cause par les autorités congolaises. Et hier, elles ont aussi publié un communiqué dans ce sens. Il y a aussi eu des mouvements dans le nord-est du Rutshuru où, selon nos sources, le M23 se serait retiré de plusieurs localités vers la frontière ougandaise. Des zones qui seraient désormais aux mains de milices contre lesquelles le M23 avait combattu. Et actuellement, on n'a plus d'informations sur la suite du calendrier. Le prochain retrait que l'EAC avait annoncé, c'était Kishishe, en raison des événements tragiques qui s'y sont déroulés fin novembre. Un responsable du M23 déclarait la semaine dernière que le mouvement était prêt à rendre la localité, mais seulement après l'envoi d'une mission d'enquête indépendante. Hier, un autre responsable était moins catégorique et il expliquait que les discussions se poursuivaient avec l'EAC.
Ouais, comment expliquer, Pauline Azidi, ce retrait au compte-gouttes des rebelles du M23.
Alors j'ai posé cette question notamment à Christophe Vogel, c'est un chercheur qui est professeur à l'université de Gand en Belgique et pour lui le M23 cherche à conserver des cartes en main pour négocier avec le gouvernement congolais et d'ailleurs cette négociation c'est depuis le début de la résurgence du groupe armé, il y a un peu plus d'un an, la principale revendication officielle.
Une autre question Jean-Baptiste.
Oui, effectivement. Alors pourquoi le force de l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, ne parviennent-elles pas à repousser ces rebelles ?
La force est-africaine qui, rappelons-le, a un mandat offensif.
Alors en réalité, elle n'essaye pas, militairement parlant, elle n'a pas engagé de combat contre les rebelles. Faut se remettre dans le contexte où cette force a été décidée. L'été dernier, le M23 n'occupait, si on peut se dire, que la ville frontalière de Bunagana. Et ce qui avait été envisagé lors d'un sommet, c'était le retrait du M23, conjugué à l'arrivée des militaires kényans pour venir s'interposer entre les FARDC, les militaires congolais, et les rebelles. Là-dessus, le temps que la force se déploie, le M23 s'est retrouvé à contrôler une grande partie du Rutshuru. Donc, c'est plus du tout le même cas de figure. Et actuellement, la voie diplomatique, celle des discussions, des concertations, est privilégiée par l'EAC, avec les résultats que j'ai précédemment cités, ce qui provoque quand même de l'incompréhension, notamment du côté de la société civile du Nord Kivu, qui avait d'ailleurs appelé à une marche contre l'EAC ce mercredi, marche interdite par les autorités et réprimée violemment par la police. Et enfin, il faut le redire, le M23 est, selon plusieurs sources, bien armée aidée par le Rwanda. C'est ce que déclarent les Nations Unies, la diplomatie américaine, l'Union européenne et plusieurs chancelleries occidentales. Le patron de l'ONU avait dit sur RFI que, par exemple, la MONUSCO n'était pas aussi bien dotée. On peut donc légitimement se poser la question de l'armement des forces de l'EAC, dont le financement n'est pas encore bouclé.
Allez, vous parliez de cette marche interdite qui s'est déroulée mercredi à Goma. Des auditeurs de Goma, justement, souhaitent revenir sur ces événements dans la libre antenne. On vous donnera bien évidemment la parole. Jean-Baptiste, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci beaucoup. Merci à vous, Anne, et à Polynésie pour les explications.
Polynésie Di, du service Afrique de RFI. Très bonne journée à tous les deux. À bientôt, Jean-Baptiste. Rappelez-nous quand vous le souhaitez, bien évidemment. Il est 9h17 ici à Paris. Des questions, tiens, pour notre correspondant permanent à Pékin. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous Stéphane. On s'est permis de vous appeler car Marius s'interroge sur le déclin de la population chinoise. Marius, soyez le bienvenu.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
En Côte d'Ivoire, à Abidjan exactement. Quelles sont vos questions ? On vous écoute avec Stéphane Lagarde.
Ok, j'ai appris sur la radio mondiale RFI que la population chinoise a baissé pour la première fois depuis 60 ans. Alors, M. Roy, je voudrais savoir comment expliquer cette baisse de natalité malgré la fin de la politique de l'enfant unique.
Ah, bonne question, Stéphane Lagarde. C'est vrai qu'on se souvient de cette décision historique des autorités chinoises d'abolir la politique de l'enfant unique pour encourager la natalité. Et visiblement, ça ne fonctionne pas.
Oui, c'est ça. Alors d'abord, quand même, depuis 60 ans, il y a plus de monde ici en Chine qu'il y a 60 ans. C'est une baisse de la croissance de la population. Il y a eu plus de décès l'année dernière que de naissance. Alors comment ça s'explique ? Plusieurs raisons. D'abord le coût de la vie ici, les villes chinoises maintenant, c'est difficile de vivre dans les villes chinoises pour beaucoup de Chinois, ça coûte très cher. Le logement a explosé, le coût de l'éducation aussi. Quand on rencontre les jeunes couples ici, on l'a fait encore ces derniers jours, à chaque fois ce qu'ils nous disent en premier, l'enfant, alors c'est vu évidemment comme un bonheur un enfant, en Chine comme partout, c'est du bonheur, mais c'est aussi un fardeau et de la pression, yali on dit ici, de la pression supplémentaire pour des jeunes qui aujourd'hui ont des difficultés, comme dans beaucoup de villes, ils ont des difficultés d'emploi, ils ont également des difficultés à élever un enfant. D'abord, il y a le logement, bien sûr, mais il y a aussi le coût de l'éducation. Ça coûte très cher ici, l'éducation, les cours, notamment les activités, ce qu'on appelle les activités extrascolaires, parce que s'il y a une compétition pas possible aussi dans les écoles chinoises, il y a beaucoup de monde ici. Et donc, pour que tout le monde réussisse, ceux qui veulent, la classe moyenne ici veut que son enfant réussisse. Et ça coûte, le piano, ça coûte plus cher, par exemple, qu'en France. Prendre des cours de piano, c'est un exemple à Pékin, des cours de musique. Donc voilà, il y a ça d'abord, il y a le coût de la vie. Et puis je dirais aussi, Marius, ça c'est important, il y a quand même un changement de mentalité aussi. Il y a un changement de mentalité, notamment chez les jeunes femmes, partout dans le monde, mais ici aussi, il y a une volonté d'émancipation. Et pour beaucoup de filles, elles n'ont plus envie de partager à elles seules. Donc cette pression, ce fardeau de l'enfant. Alors, il y a aussi les traditions familiales en ce moment. Je vous dis ça parce que c'est intéressant. Il y a quand même le nouvel an lunaire qui commence demain, oui, avec ses vacances. C'est les grandes vacances chinoises là, pendant une semaine. Et les gens vont se retrouver en famille, dans la famille. Et moi, alors je pensais qu'il y avait que les filles qui disaient ça. Non, non. On a même rencontré un jeune livreur qui a dit « Mais moi, j'y vais plus parce que à chaque fois que je vais dans la famille, j'ai 10 personnes autour de moi. » C'est un jeune, il dit « À mon âge, je me retrouve avec 10 personnes, l'oncle, la tante, les grands-parents. Tout le monde me dit « Quand est-ce que tu vas te marier ? Quand est-ce que tu vas faire des enfants ?» Et il y a pour beaucoup de jeunes couples, ça se passe plus comme ça aujourd'hui. Ils n'ont plus envie de faire des enfants tout de suite.
Alors que depuis 2 ans, les Chinois peuvent officiellement avoir 3 enfants. C'est désormais légal. Marius, d'autres questions pour Stéphane Lagarde ?
Oui, oui, je voudrais savoir si cette baisse de natalité va durer sur le long terme. Et ensuite, est-ce que les autorités chinoises s'inquiètent-elles de cette chute de natalité ?
Que disent les statistiques, Stéphane Lagarde, concernant la baisse de la natalité ?
Alors d'abord, vous avez raison, Juan, c'est vrai que c'est la fin de la politique de l'enfant unique est arrivée un peu tard, puisqu'on a parlé, maintenant les villes se sont gentrifiées, comme disent les Anglais, donc c'est devenu très cher, donc c'est arrivé un peu tard. Que disent les autorités ? Elles sont inquiètes, pourquoi ? Ou les épidémiologistes, en tout cas, certains disent qu'on aura en 2050, il y aura 250 millions de Chinois en moins, je ne veux pas aller trop dans les chiffres, parce que voilà, mais en tout cas, on va la population va baisser. Cette année, peut-être, d'ailleurs, les épidémiologistes disent l'Inde, la population indienne, oui, va passer devant celle de la population chinoise. Donc, effectivement, il y a ça, avec tous les problèmes que ça entraîne, Marius. Évidemment, quand une population vieillit, qu'est-ce que ça entraîne comme problème? Eh ben, tout simplement, par exemple, là, en ce moment, ils essayent dans les résidences. Ici, il y a des tours toutes neuves d'ailleurs, ils ont construit trop, hein. Il y a une crise de l'immobilier ici, mais enfin, il y a des grandes tours avec tout ce qui est équipé, les ascenseurs, mais il y a aussi beaucoup d'immeubles de 5 étages qui ont été construits il y a 30 ans. Et là, il faut, par exemple, créer des ascenseurs, parce que quand la personne âgée peut plus monter en haut, comment on fait? Et puis, il y a le problème aussi des maisons de retraite, il y en a peu. Et puis, enfin, le problème des pensions.
Des pensions de retraite, partout.
Ici, on dit qu'en 2035, en 2035, l'Académie des sciences sociales chinoises disait qu'on n'aurait plus les moyens de les payer aujourd'hui. Hein, il n'y aura plus assez d'actifs pour payer ces pensions qui ne sont pas très élevées, en plus, en Chine. Hein, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vieux qui sont obligés ici, de personnes âgées, pardon, je respecte tout à fait ça, et qui sont obligés de travailler. On en voit, moi j'en vois près de ma résidence, par exemple, l'autre fois un monsieur qui me disait qu'il avait 68 ans et qu'il ramassait les cartons. Vous savez, c'est le recyclage. Donc il était en train de ramasser les cartons qu'il revendait ensuite à des grossistes qui recyclent ces cartons. Donc vous voyez, on est obligé de travailler très longtemps parce que souvent les pensions sont vraiment très petites.
Le témoignage et l'analyse de Stéphane Lagarde. Marius, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui. Oui, merci M. Juan, merci à Stéphane Lagarde et à toute l'équipe qui vous accompagne.
Et très bonne journée à Abidjan où il est 8h22. Bonjour Gabriel.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Des questions à la rédaction de RFI concernant la situation en Ukraine.
Oui, bien sûr, oui. Bon, j'ai entendu la semaine passée sur les ondes de la RFI que les autorités russes avaient annoncé avoir saisi la ville de Soledad. Le gouvernement ukrainien a démenti cette annonce malgré le recul de ses troupes. Alors, qu'est-ce qu'on en sait plus la situation actuelle dans cette ville?
Ouais, vous avez raison de vous interroger. C'est vrai que les informations sont contradictoires. On a d'un côté, depuis une semaine, Moscou qui revendique contrôler cette ville de Soledad dans la région de Donetsk, hein, à l'est de l'Ukraine. Et puis Kiev qui, au contraire, affirme que Soledad est toujours sous son contrôle. Bonjour Elsa Vidal.
Bonjour Juan.
Merci.
Bonjour Gabriel.
Vous êtes la chef du service en langue russe de RFI. Sait-on, Elsa Vidal, qui contrôle vraiment Soledad?
Non, on ne le sait pas, car effectivement, pour le moment, les deux camps clament leur contrôle. On sait qu'en revanche, l'armée ukrainienne a dû concéder des pertes de territoire à Soledad. Ce qui peut vous aider, Gabriel, pour comprendre ce qui se passe, c'est que Soledad, en fait, ce n'est qu'une petite bourgade, comme vous l'avez annoncé, c'est 10 000 habitants, qui se trouve donc au nord de Bakhmout et qui est devenu important parce que depuis le mois de mai, les Russes et les Ukrainiens se battent pour essayer de prendre Bakhmout. Ils n'y arrivent pas. Et la bataille de Soledad est une tentative de contourner Bakhmout pour arriver à prendre les troupes ukrainiennes à revers. Et aujourd'hui, cette bataille d'ailleurs se poursuit au sud, à Klishchevka, pour encercler Bakhmout par un autre côté. On parle de ces villes, que ce soit Soledad ou Klishchevka, comme s'il s'agissait de grandes agglomérations, mais ce sont en fait quasiment des faubourgs ou parfois des banlieues de Soledad. Donc en fait, il s'agit de la continuation, quand on parle de Soledad, de la grande bataille de Bakhmout qui a commencé en mai.
Oui, donc Soledad, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif.
Absolument pas.
Si je vous comprends bien, Elsa Vidal, une étape pour aller plus loin et pour encercler et pour prendre clairement la ville de Bakhmout, c'est bien ça?
Oui, une étape face à un échec et à une difficulté, puisque les deux armées qui se font face n'arrivent pas, ni l'une ni l'autre, à remporter le moment décisif.
Ouais. Alors, militairement parlant, cette ville a peu d'intérêt, Elsa Vidal. En même temps, ça permet, une fois que la ville sera, si elle sera un jour entièrement contrôlée par les Russes, ça permettra à Vladimir Poutine, en tout cas, de revendiquer une victoire. Ça fait bien longtemps que l'armée russe n'a pas remporté de succès militaire sur le terrain.
Oui, là est tout l'enjeu, Juan. En fait, on parle énormément de Soledad parce que depuis la mobilisation qui a été annoncée en septembre 2022 et qui aurait dû permettre aux Russes de franchir des caps tout à fait significatifs dans la bataille, justement, il n'y a pas de bataille significative, de victoire remportée. Et au contraire, la nomination d'un général, le général Sourovikin, en octobre, devait s'accompagner de victoire. Or, celui-ci a organisé l'évacuation par les troupes russes de Kherson. Et depuis, rien. aucune victoire. Donc c'est particulièrement difficile à expliquer à la population russe. Et ça a entraîné d'ailleurs son remplacement à la tête de la guerre en Ukraine par le chef d'état-major des armées, Valéry Gerasimov, dont on sait qu'il est dans l'ensemble plutôt hostile à cette guerre.
Elsa Vidal, merci infiniment d'avoir pris quelques instants pour répondre à Gabriel qui nous appelait de la RDC. Il nous reste 4 minutes, le temps d'accueillir. Alors là, je suis ravi et fier d'avoir un auditeur qui nous appelle du territoire de... Nunavut. Nunavut, c'est au Canada, c'est dans le Grand Nord, c'est juste en face du Groenland. Bonjour Olivier.
Bonjour Ron Gomez.
Merci de nous écouter sur Internet.
Oui, merci à vous.
Et vous écoutez en plus RFI en pleine nuit. Il fait, avez-vous dit au standard, moins 20 degrés en ce moment, là où vous êtes?
Oh, il fait beau, il fait moins 21, ça va.
Ça... moins 21 degrés, ça va. Bon, Olivier, je suis ravi de dialoguer avec vous. Vous nous avez contacté car vous avez des questions concernant les récents propos du ministre de l'Intérieur de votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville.
Oui.
On vous écoute.
Oui, la question est celle-ci. Le ministre de l'Intérieur a annoncé dans un discours que toutes les personnes qui circulent au-delà de 21h sans carte d'identité seraient interpellées. Quelles conséquences a cette décision sur la population?
Allez, bonne question.
Si elle, par exemple, venait à être appliquée.
Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas encore appliquée, mais les propos du ministre de l'Intérieur font polémique. Ils font réagir les organisations de défense des droits humains. Bonjour, Mexan Animba Emeka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur général du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme. Tous ceux qui se trouveront dans la rue au-delà de 21h, 22h, sans carte d'identité seront considérés comme des délinquants. Voilà les propos du ministre. Comment réagissez-vous en tant que responsable des droits humains?
Cette mesure pose quelques problèmes quand même. Le premier problème, c'est que le communiqué du ministre dit que toute personne qui n'a pas de pièce d'identité est présumée être un délinquant. Il y a donc une présomption de délinquance. Or, le principe est que la bonne foi doit être présumée jusqu'à preuve de contraire. Et là, on a renversé la notion de présomption d'innocence pour une présomption de culpabilité. Et la deuxième chose que pose cette mesure, c'est que les cartes d'identité ne sont pas disponibles depuis quelques mois, disons. Et donc, l'État est en train d'obliger les citoyens à détenir un document qu'il n'arrive plus à délivrer lui-même.
Oui, parce que c'est...
Je me suis amusé comme ça.
C'est un véritable parcours du combattant que d'obtenir une carte d'identité au Congo-Brazzaville.
Bien sûr. Je me suis amusé à interroger quelques collègues autour de moi. Ce n'est pas un sondage scientifique, c'est empirique. J'ai interrogé 30 collègues. Sur les 30, seulement 9 avaient leur pièce d'identité. Mais les 21 autres veulent bien avoir cette pièce, mais depuis quelques mois, c'est un parcours de combattant, comme vous le dites. Mmh. Ils font les démarches auprès des services d'identification, mais ils n'arrivent pas à avoir ce document.
Et Mexan Animba et Meka, pour regarder les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de temps en temps de prendre la température et de voir comment réagit l'opinion publique. J'ai vu beaucoup d'auditeurs, j'ai vu beaucoup de Congolais sur les réseaux sociaux dire « Attention à la multiplication des contrôles par les forces de l'ordre, ça peut devenir un petit commerce pour les policiers. »
Exactement. C'est un secret de polichinelle que la police fait dans le racket des citoyens. Et là, on leur donne une opportunité supplémentaire de racketter des gens qui ne peuvent pas obtenir la pièce d'identité auprès des services compétents parce que l'État est incapable de fournir ce document. Et oui. Tout le monde sait que ça va se terminer par des pots de vin.
D'où l'inquiétude, d'où votre inquiétude et celle de nombreuses organisations de défense des droits humains. Merci infiniment, Mexan Animba et Meka. Olivier, on a répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup, Juan Gomez.
Et merci de nous écouter. Continuez à nous écouter la nuit, Olivier, dans le territoire de Nunavut. Bonne fin de nuit sur place. Il est 9h30 ici à Paris.